Radio Barque, contre-regard sur l'actualité narbonnaise. Radio Barque 34e de la saison. Bonjour Michel.
Bonjour Jean-Claude.
Bonjour Henri Martin.
Bonjour.
Qui est notre invité, maire de Port-la-Nouvelle, vice-président de l'agglo du Grand Narbonne, mais aussi conseiller départemental. On en dira peut-être un mot, bien sûr, même si, oui, d'autant plus que, je le redis, nous l'avions déjà signalé à ce micro, vous êtes conseiller départemental unique, puisque vous êtes le seul d'opposition. Enfin, le binôme est unique, puisque maintenant, on fonctionne par binôme.
Ne commence pas bon, à mais tenir des propos un peu sexistes. Ce n'est pas le moment.
Hein, non, le binôme est unique. Je réitère, je persiste et je signe. Notre sommaire, Michel, nous commencerons par la retraite chapeau de M. Huchon.
Oui,
pas Hulot.
Pas Huchon.
Après quoi, tu feras un parallèle mathématiquement osé entre Ménard et Jaurès.
Oui. Hein,
on verra si l'axiome d'Euclide tient toujours, si les parallèles se rejoignent un jour ou pas.
Ça me permettra de rafraîchir la mémoire historique de nos auditeurs.
Voilà. Après quoi, nous parlerons dans une deuxième partie de l'entretien du bilan du maire de Narbonne tel que ça a été vu dans la presse il y a quelques jours à peine. Et tu termineras par Madame Fabre qui déclare tout de go qu'elle ne votera pas la loi. Alors El Khomri, travail, on l'appelle comme on voudra, parce que le 49-3 lui déplaît, affirme-t-elle.
Pas tout à fait ça, mais je m'expliquerai.
Oui, eh bien tu t'expliqueras, tu es là pour ça, Michel. Je le rappelle quand même. Alors, l'indécente retraite chapeau de M. Huchon. Des retraites chapeau, il y en a plein d'autres. Elles sont toutes aussi indécentes, mais celle-ci, t'as rebroussé le poil.
Oui, alors, rappel des faits. Et pourquoi cette chronique que j'ai publiée dans mon blog. Rappel des faits. Il y a 3 semaines environ, l'Assemblée générale, en fait, des actionnaires du groupe Rosson-Nissan, rejetait en fait, les propositions enfin, de rémunération proposées à cette Assemblée générale, rémunération de leur patron, M. Carlos Ghosn. Un montant de rémunération qui se levait en gros à plus de 15 millions d'euros.
Les deux cumulés, hein, les deux Nissan cumulés. Et Renault.
Les deux cumulés. Alors évidemment, oui. Le conseil d'administration a rejeté ce vote majoritaire de l'Assemblée générale, ce qui est quand même, on peut le noter au passage, un biais démocratique évident, hein, même si la démocratie politique n'est pas un mode de gestion d'une entreprise et d'un grand groupe
multinational. Oui, la démocratie en entreprise, c'est autre chose.
Passons. Et donc, ce montant total de rémunération est maintenu. Or, quelques temps après, j'apprends en lisant dans le Monde, pardon pour les autres titres que je ne lis pas régulièrement, j'apprends que Manuel Valls aurait promis, alors j'utilise le conditionnel évidemment, à l'ancien patron socialiste de la région Île-de-France, Jean-Paul Huchon, et non pas Jean-Paul Hulot, hein, Jean-Paul Huchon contraint de renoncer à briguer un 4e mandat après l'entrée en lice de Claude Barthelone, pour rafraîchir là aussi la mémoire de nos auditeurs.
Il avait laissé la place gentiment et complaisamment.
C'est ça. Sauf que c'est pas du tout la version de Huchon en question. Enfin bref, virer Huchon.
Complaisamment, oui.
Virer Huchon. Barthelone, lui aussi viré, puisque c'est madame, dont j'ai perdu le nom déjà, Valérie Pécresse,
qui a gagné. Alors c'est les élections. C'est les électeurs. Exactement. Qui ont viré Barthelone.
Donc Huchon viré, 70 ans, hein, se demandant ce qu'il allait faire et surtout pas ne rien faire, visiblement a sollicité auprès de ses amis un recasage honorifique sur tous les plans. Et donc, voilà, Manuel Valls leur aurait promis de présider l'ARAFER, qui est une espèce de machin.
Quoi, encore un fromage obscur de la République.
L'équivalent du CSA pour l'audiovisuel qui est censé réguler les activités ferroviaires et routières. L'ARAFER. Hein. Alors, quand même. Quoi, hein. Alors que Manuel Valls, Jean-Paul Huchon et tous les amis de Jean-Paul Huchon n'ont cessé de critiquer, mais alors avec quelle violence. Hein.
Cette fois-ci, Ghosn, il en a pris pour son
grade. La rémunération chapeau de M. Carlos Ghosn. Là, mutisme complet. Personne ne dit rien, ou presque, dans la presse progressiste et de gauche, mais comme dans la presse en général. Et voilà un garçon qui, outre sa retraite très confortable,
déjà institutionnelle,
d'ancien président de la région Île-de-France, en 6 ans, va récolter, si je puis dire, 888 000 euros. Voilà. Sans compter, évidemment, les avantages en nature, hein, voiture de fonction, repas, déplacement, en fait, etc. Hein. Voilà, donc petite note au passage sur voilà, une manière très particulière pour nos élites politiques hein, de se recaser quand effectivement ils se retrouvent dans une difficulté toute relative quand même, je le rappelle.
Oui, toute relative. Hein,
relative.
Oui.
J'ouvre une parenthèse. Hein, je considère à titre personnel qu'arriver à un certain âge comme le mien, par exemple, ou le tien, Jean-Claude, hein, 70 ans... Pas encore là, quand même. Hein.
70, oui.
Bon, ben voilà, ben on s'arrête, quoi. Hein. On s'arrête, on joue de sa retraite, et puis voilà, on cultive son petit jardin secret, voire de manière bénévole, on offre ses services ou son intelligence à, je sais pas moi, un mouvement associatif quelconque qui aurait besoin, effectivement, de ce genre de capital intellectuel comme celui de M. Huchon. Mais de là, bon, à solliciter, et surtout, bon, à lui attribuer des revenus complémentaires à travers une présidence comme celle-là, je trouve ça particulièrement scandaleux.
Des revenus surtout, qui ne sont pas nécessaires, disons-le
surtout,
clairement.
Surtout dans une époque et dans une conjoncture où tous les pouvoirs ne cessent de nous dire, hein, aux travailleurs, aux consommateurs et aux contribuables, qu'il faut faire des efforts financiers, mais sérieux, parce qu'effectivement, notre pays est en grande difficulté financière.
Oui, mais il faut traduire les efforts, quand on les demande, c'est toujours aux autres. Pas soi-même, enfin, Michel.
Oui, à l'évidence, bon, à travers cet exemple-là, il serait démontré à tous nos auditeurs que, voilà, la morale que l'on s'évertue d'imposer aux autres, on se l'interdit à soi-même.
Et puis là, finalement, c'est de l'argent des contribuables, c'est pas de l'argent privé, donc l'argent des contribuables est infini, c'est un puits sans fond, on le sait très bien.
Oui, alors ce qui m'a d'autant plus fait rigoler dans cette affaire, c'est que le même Huchon a eu ces paroles assez extraordinaires quand même, hein, après avoir bénéficié, enfin j'espère quand même qu'entre-temps, et après c'est notre chronique Jean-Claude, que François Hollande, qui en dernière instance on dira oui ou dira non, hein, nous écoute, hein, et qu'il ne satisfera pas cette demande de M. Huchon, qui, en plus, hein, a le culot en fait, de prononcer ces paroles d'anthologie, en fait, que j'ai pu retenir aussi, hein, pour moi, la politique... C'est fini. Deux points, j'ouvre les guillemets. J'ai croisé tellement de traîtres, de médiocres et de connards. C'est pas moi qui parle comme ça.
Je m'en doute.
Sauf Rocard. Franchement, quand même, c'est pas très glorieux.
Oui, voilà. Mais enfin, pas glorieux, hélas. Il y a quelques exemples de temps en temps qui illustrent ce côté peu glorieux. Alors maintenant, entrons dans la mathématique revue par Michel Santo, à savoir... L'axiome d'Euclide sur les parallèles, Ménard et Jaurès seraient des parallèles qui se rejoignent à un moment.
Oui, c'est une chronique qui va me permettre, peut-être, hein, de rafraîchir la mémoire historique de nos auditeurs. Alors, le prétexte en est le dernier numéro du journal municipal de Béziers, donc de M. Ménard, avec une couverture qui présente en fait, Jaurès avec un drapeau en fait, à la main, hein, et avec un titre « Nous allons faire la révolution, rendez-vous, place Jean Jaurès à Béziers, tel jour, telle date », avec une iconographie qui, entre parenthèses, m'a rappelé celle que l'on pouvait, en fait, que l'on pouvait trouver pendant les années 40 dans ce pays en pleine occupation. Je ferme la parenthèse. Donc, pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce que quand ce numéro est sorti, beaucoup d'observateurs ont réagi de manière très, très singulière en faisant observer que tout ça c'était scandaleux, fait, c'était une hérésie, fait, bref, ce qui est vrai, ce qui est vrai. Mais les mêmes ont oublié de rappeler que ce n'est pas une première, à savoir cette utilisation de ce grand personnage, hein, Jean Jaurès, par l'extrême droite française. Par l'extrême droite française. Tout récemment, quand même, je le rappelle, hein, c'est M. Steve Briouat, hein, vice-président du FN, qui, sitôt qu'il a été élu maire d'Hénin-Beaumont, hein, a fait déplacer un buste de Jean Jaurès pour le placer dans son bureau. Je rappelle aussi, hein, que Louis Alliot, notre voisin de Perpignan, là, vice-président du FN, lui aussi, en 2009, c'est pas très vieux, hein, faisait coller sur les murs de la région sud-ouest une affiche affirmant « Jaurès aurait voté Front National
». Et Jaurès n'a pas protesté.
Premier rappel historique, mais tout récent. Mais surtout, et pour en venir au fond, l'utilisation de l'image, voire même de certains éléments pris, fait, non pas au hasard, dans la pensée de Jaurès, hein, cette liaison entre l'extrême droite et une certaine gauche ne date pas d'hier.
Oui,
sous l'occupation, quand même, je le rappelle, je vais aller très très vite. Hein, une figure enfin, comme celle de Marcel Déa, hein, Marcel Déa, hein, qui était un socialiste membre de la SFIO, et qui, déjà, en fait, hein, faisait observer que Jaurès, hein, à travers certains éléments de sa pensée, hein, était effectivement en phase avec ce que mettait en valeur à l'époque Pétain et ses amis. Hein,
oui.
Notamment,
la grosse ficelle n'est pas nouvelle.
Notamment une critique sans concession du libéralisme économique et politique, la promotion d'une économie administrée et planifiée, un anti-américanisme de principe, en fait, et puis une glorification patriotique particulièrement délirante, sans oublier, bon, évidemment, la peur de l'ouverture au monde, notamment avec l'immigration et tout ce qui, tout ce qui peut la rappeler.
Voilà, donc, quel est le bénéfice de ça
Le bénéfice de ça, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on voit une Marine Le Pen qui est exactement sur ce créneau, qui reprend des thèmes, des thématiques, voire même des éléments de programme que Mélenchon, par exemple, effectivement, propose à ses propres électeurs, pour l'intégrer dans sa propre stratégie et dans son propre programme. Donc on voit très bien aujourd'hui une conjonction, effectivement, de l'extrême droite avec une partie de l'extrême gauche, en tout cas en termes de thématiques faites et de programmes, qui me rappelle étrangement les années 40. Et c'est pour ça que, bon, il y a de quoi s'indigner, effectivement, hein, de l'utilisation et de l'instrumentalisation par cette extrême droite de Jaurès et de sa figure.
Voilà, maintenant, quel est le bénéfice qu'ils peuvent en tirer? Eh bien, on marque une pause et pendant cette pause, je vous laisse le soin d'y réfléchir. Qu'est-ce que ça peut rapporter à des gens de l'extrême droite de récupérer l'image de Jean Jaurès?
Des électeurs, mon cher Jean-Claude.
On verra.